Chapitre 26e, en mer. Île Pilstar, île rose. Un petit point d'abord imperceptible se dresse là-bas sur les eaux et monte verticalement ainsi que le frêle grand mât d'un navire. À ses côtés, une seconde pyramide apparaît, puis une troisième à peu près de la même hauteur. C'est peut-être une escadre qui croise au sein du vaste océan. Non, c'est à coup sûr une flotte immense, car voilà de nouveaux mâts qui grimpent à la surface et se placent en cercle autour d'une masse imposante, comme le feraient 20 vaisseaux autour du vaisseau amiral dont ils attendraient les ordres. La brise souffle fraîche. Nous approchons de nos amis. Nous saurons probablement des nouvelles de notre patrie absente depuis si longtemps. Mais non, ce ne sont plus des navires à la mer, ce sont des roches aiguës jetées là par la main de Dieu. Figurez-vous un gigantesque cirque formé d'aiguilles colossales taillé comme le ferait un sculpteur qui dresserait un obélisque sur un monolithe, toutes debout, telles que des soldats à leur poste d'honneur, prêts à défendre leur drapeau. Au centre est une masse compacte, pointe aiguë, celle-là, mais onduleuse, et formant l'exacte silhouette d'un berceau avec sa tête enlevée, avec son oreille arrondie, ses pieds qui descendent par une pente douce, et ses flancs bordés et inclinés à pic. On fait plus que de regarder, on admire. Nous approchons encore, et nous pouvons étudier tous les plus petits détails de cet admirable caprice de la nature. L'île, c'est Pilstar, je vous l'ai dit, un grand berceau. Les clochers pointus sont des pyramides élancées de roches, dont la base noirâtre est sans cesse battue des flots et dont la cime, refuge éternel de myriades d'oiseaux voyageurs, garde une teinte blanche qui de loin complète l'illusion, figurant à merveille le jeu des hautes voiles d'un navire. Chacune de ces roches a plus de 300 pieds d'élévation, plusieurs en ont le double, et l'île entière est protégée par cette escadre granitique qui dit aux assaillants de se tenir au large, car un navire a toujours tort de venir se heurter contre leurs arêtes en forte saillie, dont le courroux des tempêtes n'a pu même user les aspérités. Nous voici presque en travers. Maintenant, c'est le berceau qui nous occupe. Tous les rares voyageurs qui ont vu Pilstar disent que l'île est inhabitée, qu'elle est inhabitable, qu'il n'y a pas, qu'il ne peut y avoir de source d'eau douce. Voilà cependant, ce me semble, un rideau de cocotiers au pied de la montagne. Je vois encore une verdure assez fraîche, des touffes assez vigoureuses, pour que je ne donne pas à l'eau du ciel, fort rare dans ces régions intertropicales, la puissance de les alimenter. Là aussi, plus haut, sur les flancs, je crois distinguer des sillons, et ces sillons ont tant de régularité qu'on les dirait tracés par la main des hommes. Qui sait? Peut-être que les voyageurs ont menti. Qui sait? Peut-être que plus tard, des rivières et des sources jaillissantes qu'il serait curieux d'étudier ont percé la croûte du sol. Mais le navire marche et le soleil qui descend à l'horizon va bientôt effacer devant nous ce superbe panorama dont mes regards ne peuvent s'arracher. Silence, silence! Car pour bien voir, il faut parfois bien écouter. Silence! Voyez là-bas, derrière un des clochers, un canot qui se meut, qui chemine. Non, c'est un rêve. Oui, c'est une réalité. Toutes les longues vues l'ont saisi, toutes les bouches le proclament, il y a un canot. Le doute est impossible. Le voilà qui met le cap sur nous et fait force de rame. Il est monté par 3 hommes. 2 seulement nagent avec ardeur. Le troisième, debout sur l'arrière, nous fait signe d'attendre. Il agite en l'air un morceau d'étoffe blanche. Et la corvette suit sa route. Oh mon Dieu! Si je pouvais descendre à terre. J'en demande la permission au commandant. Elle m'est refusée. Il sait, lui, mieux que moi, s'il y a du danger à mettre en panne, et sa responsabilité plus grande que la mienne. Eh! Qu'importe le danger, qu'importe un péril plus menaçant encore, il y a là une île, qu'on dit inhabitable, un canot s'en détache. Ce canot est monté par 3 hommes qui viennent à nous, qui nous font peut-être des signes de détresse, qui nous font à coup sûr des signes d'amitié. Oh! Mettez en panne, et tendez la main des amis, portons secours à des malheureux. Qui sait si ce ne sont pas des naufragés qui attendaient un navire sauveur? Qui sait depuis combien d'heures, depuis combien de jours, de mois, d'années? Ils sont là, livrés peut-être aux angoisses de la faim et de la soif. Qui sait combien de temps encore ils attendront l'occasion si heureuse, si inespérée, qu'ils tentent de saisir? Qui nous dit que ce ne sont pas les seuls débris échappés à une catastrophe horrible? Oh, que ne donnerais-je pas pour les voir de près, pour les entendre, pour leur serrer la main? Et les arracher ce coin de terre si éloigné de tout continent, si tristement abandonné loin de tout l'archipel. Mais je vous le répète, je ne commande pas la corvette, moi. notre capitaine sait son devoir, et le navire court toujours. Enfin, nous mettons en panne, loin, bien loin de Pilstar, la poétique, la mystérieuse, la regrettée. Le soleil s'est caché, la nuit est venue. La pirogue ou le canot n'a pas osé, dans les ténèbres, poursuivre sa route aventureuse. Il a cherché à regagner son île, son refuge. Nous le perdons de vue. Les clochers aigus disparaissent petit à petit sous le voile qui les couvre. Tout s'efface derrière nous. Le chemin nous est tracé et ouvert de l'avant. Nous orientons de nouveau et nous saluons de nos regrets Pilstar l'inhabitable, d'où pourtant s'étaient détachés pour nous voir trois hommes, trois infortunés sans doute, qui nous demandent appui et protection. Que Dieu leur soit en aide. La corvette poursuivait sa route et selon toute probabilité, notre premier relâche sera au Tahiti. Nous avions en effet le cap sur les îles de la Société et nous saluions déjà de la main cette pointe de Vénus si joyeusement visitée par Bougainville. Allons-y donc, le but n'est pas là encore, mais le chemin parcouru nous donne des forces pour l'avenir. Terre, terre ! Crie la vigie. Nous consultons la carte. La carte est muette, il n'y a pas de terre devant nous. La voilà pourtant, elle monte, elle se dessine maintenant. Nous faisons une découverte. Oh, si c'était une île comme Bornéo, comme Sumatra, seulement comme Timor. Si c'était un archipel nouveau, une colonie comme on en rêvait une au XVe siècle. Si c'était un continent échappé depuis peu du fond des abîmes. La voilà, la terre découverte se déploie dans toute sa majesté. Elle a, ni plus ni moins, un quart de lieue de diamètre. Et c'est pour cela que nous regardons notre découverte comme fort importante pour la marine. Un navire s'ouvre sur une terre vaste et féconde, mais les hommes y vivent. Le vaisseau se perd sur un rocher isolé. La mort plane sur tout l'équipage et le rocher devient une tombe. L'îlot est entouré de récifs sur lesquels la vague se promène avec fracas. La cime est couronnée de quelques arbustes et les flancs déchiquetés semblent vaincus par les ouragans océaniques. Un nombre considérable d'oiseaux pélagiens viennent chercher un refuge sur cette terre isolée et les navires voyageurs veilleront bien à ne pas la heurter dans leur route. Quel nom donnerons-nous à notre découverte ? Le nom est trouvé. Rose est la patronne de la femme courageuse qui achève avec nous ce long pèlerinage. Cette jeune et vertueuse épouse, dont tant de larmes ont accompagné le départ, dont tant de joies ont salué l'arrivée. Pauvre voyageuse, qui a survécu si peu de temps à l'épreuve qu'elle avait acceptée avec tant de dévouement. L'île s'appellera Île Rose, et c'est en effet le nom qu'elle porte dans les nouvelles cartes marines. Elle vient de s'effacer dans les flots. Elle est seule, basse, désolée, sommet presque invisible de quelques montagnes sous-marines dont le pied repose dans le centre de la terre. Tout a disparu, ainsi que l'arc-en-ciel solaire qui semblait auréoler notre frêle découverte. Nous avons à notre gauche les archipels des Amis et de la Société, les îles Fidji, où vivent des peuplades farouches. Nous cherchons un des nœuds du méridien magnétique et nous cinglons vers cette nouvelle Galles du Sud, sur laquelle se pavane l'Europe, mais dont l'intérieur sauvage est encore inconnu.